C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, nous protégeons ce que nous aimons et nous aimons ce que nous connaissons, aimait répéter le commandant Cousteau. Nous pouvons donc nous réjouir qu'une science comme l'éthologie, qui consiste à étudier le comportement des animaux, se développe. Par exemple, après avoir écouté cette émission, vous ne verrez plus un poulpe de la même façon. Et si, comme beaucoup d'entre nous, vous n'en avez jamais vu, votre imaginaire va s'élargir jusqu'à considérer que chaque être vivant sur cette planète a peut-être des capacités insoupçonnées et que donc ils méritent le respect. Savoir observer et s'émerveiller de l'ingéniosité du vivant est sans doute l'une des clés pour nous donner envie de le préserver. Notre invité va vous le prouver. Soyez les bienvenus dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Ludovic Dickel.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'éthologie à l'université de Caen, Normandie. Vous venez de publier « La vie privée du poulpe » chez Human Science. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer ce qu'est l'éthologie ?
Un éthologue est quelqu'un qui va s'intéresser à la compréhension des comportements. Donc, qui va décrire les comportements des animaux et des humains. L'éthologue, c'est pas que pour les animaux, et qui va essayer de les comprendre.
Alors vous essayez de comprendre le poulpe ou la pieuvre. On va se mettre d'accord tout de suite, on dit l'un et l'autre.
On dit les deux.
Et alors c'est quoi la différence ? Pourquoi est-ce que vous dites, votre livre s'appelle « La vie privée du poulpe », il aurait pu s'appeler « La vie privée de la pieuvre »
Je trouve ça sonne mieux, poulpe sonne mieux, mais pieuvre c'est le nom vernaculaire du poulpe en Bretagne, et ça vient de Victor Hugo, donc on va
respecter.
Respecte beaucoup. Oui.
Vous respectez Victor Hugo, moi aussi. Alors qu'est-ce qui vous fascine chez le poulpe depuis votre enfance ?
Alors, le premier objet de fascination de l'animal, c'est son aspect. Il a un aspect qui est à la fois complètement effrayant. Il est mou, il n'a pas de squelette, donc il est très très loin de nous. Donc, il est flasque. En même temps, il change de couleur tout le temps, donc il n'est pas définissable. On n'arrive pas bien à le circonscrire, on n'arrive pas bien à voir quelles sont les limites. Et puis en même temps, il nous ressemble énormément. Il a un regard comme le nôtre, il a des comportements un petit peu comme les nôtres. Je me plais à dire qu'un poulpe, c'est un petit peu une main avec un cerveau. On est familiarisé avec nos mains. Donc c'est cet étrange mélange de familiarité et d'effroi.
Alors, vous l'appelez la majesté du rivage. On sent, hein, en lisant votre livre, que vous êtes complètement accro, en fait. Vous êtes complètement fasciné par cet animal. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, est-ce qu'on peut le décrire ? C'est quoi ? Donc, vous disiez une main avec des yeux. Mais en gros, c'est... Alors, sa taille, il y a 200 espèces à peu près, je crois, c'est ça ?
Il y a 800 espèces de céphalopodes. Alors, les poulpes et ses cousins. Parce que souvent, quand on parle de la pieuvre, c'est un terme générique pour désigner aussi les seiches, les calmars, les nautiles, qui sont des cousins du poulpe. Il y a 200 espèces de pieuvres, mais vraiment qui ressemblent vraiment à l'image d'épinal qu'on a de la pieuvre. Mais il y a 800 espèces de cousins de la pieuvre qui ont les mêmes capacités, qui ressemblent beaucoup à la pieuvre, mais qui ont un petit peu des modes de vie différents. Mais 200 espèces de pieuvres, on va dire ça.
Mais la pieuvre, c'est quoi ? C'est 8 bras toujours couverts de ventouses ou plus ou moins de bras ?
Toujours 8 bras. De temps en temps, on en trouve moins quand elle s'en fait manger un ou deux.
Oui.
Mais sinon, typiquement, il y a 8 bras. Et ce qui relie toutes les pieuvres les unes aux autres, c'est la ventouse. Donc des bras, des ventouses. Si en mer, vous croisez un animal qui a des bras et des ventouses, il y a fort à parier que ça soit une pieuvre.
Alors, leur peau, vous écrivez cela, est un véritable bijou de technologie. Expliquez-nous ça, justement. Ces ventouses et ces bras-là sont en fait des miracles un peu de la nature.
Alors, tout est miracle dans cet animal-là. C'est un extraterrestre. Mais la première chose qui frappe chez cet animal, c'est effectivement les formes, les bras, les ventouses. Mais c'est surtout les changements de couleur. Ça, c'est extraordinaire. C'est un animal qui arrive à se confondre complètement dans l'environnement et sur le substrat sur lequel il est. Et ça, c'est grâce à sa peau. Il a une peau qui lui permet de changer de couleur, et les changements de couleur sont directement commandés par le cerveau.
Donc ça veut dire que Est-ce que c'est intentionnel? On va revenir tout à l'heure sur le cerveau du poulpe. On peut en faire 4 heures d'émission. Mais est-ce que c'est intentionnel ou c'est instinctif quand, par exemple, un poulpe se retrouve sur une pierre, il en prend la couleur, ou sur un rocher pour, j'imagine, plutôt se protéger et ne pas se faire manger par les autres? C'est un instinct de protection?
Moi, je préférais que ça soit instinctif. Mon métier serait beaucoup plus simple. Mais c'est pas aussi simple. C'est pas un réflexe. C'est pas quelque chose qui est très stéréotypé. En fait, ça dépend des poulpes. Ça dépend de ce qu'il a vécu avant. Ça dépend de l'environnement, s'il y a des prédateurs, s'il y a des proies, etc. Donc, c'est quelque chose, je ne sais pas si on peut dire que c'est intentionnel, mais c'est quelque chose d'extraordinairement flexible entre les poulpes. Chaque poulpe décide des couleurs qu'il va arborer, en fait.
Alors, pour qu'on comprenne, sa peau sont des milliers de petites croix qui abritent chacune des... Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, ce changement de couleur qui est complètement incroyable?
Là encore, c'est une horreur pour nous parce que la peau est extrêmement complexe. Il y a plusieurs couches de cellules et la couche qu'on voit, c'est une couche qui est composée de petits sacs, en fait. Et les petits sacs vont se dilater ou se rétracter en fonction de ce que l'animal décide. Et comme il y a des millions de petits sacs de pigments qui se rétractent ou qui se dilatent, ben l'animal va pouvoir déployer sur sa peau des motifs géométriques ou uniformes. Et puis en plus, il y a sous ce petit écran qui peut changer de couleur, il y a des muscles qui permettent à l'animal de changer de texture. Donc on va pouvoir, je ne sais pas si vous avez déjà vu du poulpe ou des poulpes peut-être
Je vais vous confesser que j'en ai déjà mangé.
Oui,
c'est plus rare.
Quand on les voit vivants, il n'y a pas deux poulpes qui ont la même texture. Il y a des sortes de petites boursouflures qui apparaissent parce que l'animal va imiter la texture du rocher sur lequel il est.
Donc la couleur et la texture, c'est quand même absolument fascinant. Et alors quand le poulpe est attaqué ou se sent en danger, il fait comme tous les céphalopodes, il lâche de l'encre?
Il lâche de l'encre quand il ne peut plus rien faire d'autre. La première chose qu'il fait, c'est se cacher et pas bouger. Quand il sait qu'il est détecté, alors... me demandez pas comment il sait ou pas qu'il est détecté. Ça, c'est quelque chose sur lequel on essaie de travailler. Et là encore, c'est très difficile de répondre à cette question. Quand il sait qu'il est détecté, il va quitter le sol, le substrat. Il va commencer à nager, donc le plus vite possible. Et puis, si vraiment il se sent réellement menacé, il va jeter de l'encre. Mais l'encre qu'il va jeter, donc ça va créer une sorte de petit fantôme de poulpe qui va lui permettre de changer de direction dans sa fuite. Donc le prédateur va foncer sur l'encre plutôt que de foncer sur la pieuvre. Donc ça fait partie des stratégies que le poulpe utilise pour éviter les prédateurs, mais il y en a plein.
Alors quelles sont les autres stratégies?
Alors, pour vous en donner des exemples, le poulpe et ses cousins, c'est pas le seul, peut changer de couleur et imiter des têtes de poisson sur son dos. Donc il fait deux grosses ocelles qui ressemblent vraiment à des yeux de poisson. Et puis il va accentuer les contours de son corps, il va s'aplatir sur le sol exactement comme un gros poisson plat. Et quand on le voit, quand on est en plongée et qu'on le voit comme ça, enfin qu'on voit cette tête de poisson sans savoir que c'est un poulpe, pendant une seconde ou deux, on a un petit mouvement de retrait, on se dit mais quelle taille doit faire ce poisson, ça doit être monstrueux. Et ben en deux secondes, c'est le temps qu'il lui faut pour se soustraire à votre vue. C'est une des stratégies, il y en a d'autres encore.
Et du coup, la question qui semble vous obséder, et du coup, en vous écoutant, qui nous obsède aussi, on sent, elle monte, cette question, ça nous intrigue, c'est de savoir si le poulpe a une forme d'intelligence qui pourrait être proche ou différente de la nôtre. Je vous laisse y réfléchir, chers auditeurs, quelques minutes en compagnie des Beatles, Octopus Garden, dans C'est pas du vent, évidemment. I'd like to be under the sea. In an octopus's garden, in the shade, he'd let us in, knows where we've been. In his octopus's garden, in the shade. An octopus's
storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade.
About the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me. No one there to tell us what to do.
I'd like to be see in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you.
I remember that day when it all started.
Je me souviens du jour où tout a commencé. J'avais découvert cette zone très particulière, protégée par une grande forêt de kelp qui atténue la houle. Je me souviens de cette forme très étrange sur ma droite. Quelque chose de vraiment bizarre. Vous vous demandez, mais à quoi joue cet animal? Elle a dû avoir un peu peur de moi, car elle a soulevé un morceau d'une algue très gluante, presque impossible à tenir à la main. Elle s'est enroulée dedans, comme avec une cape, et elle m'a observé par un interstice. Certaines intuitions sont difficiles à expliquer, mais j'ai senti que cette créature était vraiment singulière. Elle pouvait m'apprendre quelque chose. Elle avait un truc particulier. Alors il m'est venu cette idée folle. Et si j'allais là-bas tous les jours? Tous les jours, sans exception.
Un extrait de La sagesse de la pieuvre tourné au Cap en Afrique du Sud par le naturaliste Greg Foster. Ce documentaire a reçu l'Oscar du meilleur film documentaire. Ludovic Dickel, vous l'avez vu ce documentaire?
Oui, oui, je l'ai vu. Oui. Et je lui aurais donné un Oscar aussi. J'ai beaucoup aimé. Scientifiquement, les différentes informations qui sont décrites sont tout à fait vérifiées. Et puis, ça donne une dimension, le documentaire donne une dimension à laquelle je n'avais pas vraiment pensé. C'est toute la dimension symbolique du poulpe, sur ses capacités de résilience, par exemple, sur sa reproduction, sur le fait qu'il ait une durée de vie qui est limitée. Il y a plein de choses qui nous interrogent et puis qui font partie de cette fascination qui nous anime, nous, spécialistes.
Oui, bah quand même, si éthologue, vous observez depuis plusieurs décennies les poulpes dans les laboratoires essentiellement, hein, plus que dans le milieu naturel, parce que dans le milieu naturel, c'est extrêmement compliqué, ça coûte très cher.
Ça coûte cher, et puis ce sont des animaux qui sont difficilement accessibles. Alors le poulpe, on peut imaginer comment y aller. Moi, je m'intéresse aux 800 espèces de céphalopodes. Il y en a beaucoup, beaucoup qui vivent dans les très, très grandes profondeurs, hein, dans les fosses abyssales. Il y en a beaucoup qui vivent en pleine eau, en plein océan, donc ils sont très, très difficiles à suivre. Pour le poulpe, hein, celui que vous évoquiez là, pour le reportage, c'est un petit peu plus simple parce qu'on arrive à le trouver dans des zones qui sont atteignables. Mais c'est vrai que ce sont des recherches qui sont très difficiles à mener. Et puis en ce moment, il y a une mode dans la recherche qui fait qu'on essaie de standardiser au maximum les résultats pour essayer de trouver une sorte de vérité. Mais finalement, en travaillant dans des conditions contrôlées, on va standardiser nos expériences, mais on va s'éloigner un petit peu de la réalité de l'animal. J'aimerais bien essayer de retrouver ça.
Et le poulpe, en plus, il faut faire attention parce qu'il peut s'enfuir de l'aquarium. Même un aquarium bien fermé, vous l'expliquez dans votre livre, ça m'a fasciné ça, moi.
Oui, on l'appelle le Houdini des mers. C'est un Houdini, c'est un magicien du début du siècle dernier qui est arrivé à s'échapper de n'importe quelle situation, enchaîné, etc. Et c'est vrai qu'un poulpe arrive, même si on est sûr, vous le mettez dans un aquarium, dont vous êtes sûr qu'il est fermé, tous les tuyaux sont... Il arrive quand même à trouver un moyen de s'échapper, c'est extraordinaire. Mais c'est un animal qui est mou, donc il peut passer n'importe où, et il le fait. Et il n'aime pas trop la captivité, surtout la nuit.
Donc il passe par les tuyaux?
Oui, il passe par les tuyaux, il descend, quand vous avez une petite échelle, il descend l'échelle et il va se promener par terre. Et il le fait dans la nature, hein. Il va se promener sur l'estran, à l'extérieur de l'eau. Et nous, il nous est arrivé de perdre assez souvent des poulpes. Simplement parce qu'on oubliait de fermer un tuyau. Non, c'est assez fréquent. C'est un animal taquin.
Voilà, alors c'est là où on revient à cette notion d'intelligence. Alors, vous n'aimez pas trop ce mot, intelligence, pour le poulpe. Qu'est-ce que vous diriez ?
Si, c'est un animal qui est intelligent, mais il y a plein d'animaux qui sont intelligents. Ils ont chacun leur type d'intelligence. L'intelligence, c'est un comportement qui est complexe, qui est remarquable, qui ressemble au nôtre. À ce qu'on aurait fait placé dans la même situation. C'est un peu comme ça qu'on voit l'intelligence de l'extérieur. Et en fait, quand on s'intéresse un petit peu au poulpe, on se rend compte qu'il vit dans un monde complètement différent du nôtre. Il ressent, par exemple, qu'il est très tactile, les indices chimiques sont extrêmement importants pour lui. Donc quand on voit un comportement de poulpe qui est très spectaculaire et on dit qu'il est très intelligent, oui, c'est vrai. Est-ce que parce qu'il est très intelligent, parce qu'il montre des comportements très complexes, il est très sensible. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est surtout cette relation qu'on fait entre l'intelligence de l'animal, les performances de l'animal dans ses comportements, et puis le fait qu'il soit très sensible. C'est cette
relation
notion
de sensibilité.
Que j'ai du mal à
faire. Ouais. Mais, alors parlons-en de ses performances. Donc, il est capable d'apprendre.
Ah, il apprend très bien.
Par exemple ?
Vous prenez n'importe quel objet que vous allez renforcer avec un petit morceau de poisson, avec un petit, ce qu'on appelle une récompense, que vous allez récompenser. L'objet, il va le reconnaître très rapidement. Et puis, au bout d'un moment, dès que vous présentez un objet, même neutre, il va y aller. Donc, ça nous permet à nous, quand on lui fait des apprentissages, de savoir ce qu'il est capable de discriminer, ce qu'il est capable de préférer. Vous le mettez dans un labyrinthe, là aussi, par le jeu de petites punitions, de petites récompenses, il va réussir à résoudre un labyrinthe assez facilement. Tous ces apprentissages qu'on fait chez les souris et chez les rats, on arrive à les faire chez les poulpes. Alors, ça pourrait paraître anodin, simplement un poulpe, c'est un mollusque. C'est un cousin des huîtres et des moules. Mettez une huître dans un labyrinthe, je ne pense pas que...
Ça va peut-être pas se passer grand-chose.
Ça risque de prendre du temps.
Et alors, vous dites aussi que le poulpe a une mémoire d'éléphant.
Ouais, certains apprentissages, le fait de lui apprendre à prendre un objet, ça peut durer des heures, des jours. Pendant des jours, il va se rappeler de ça. Donc il a une mémoire qui est très très au point et très longue. Ouais.
Et des moteurs extrêmement sophistiqués aussi pour se déplacer ?
Des moteurs, par moteur, vous entendez des moyens de se déplacer ?
Oui.
Ah bah oui, oui. Alors le poulpe va utiliser un moyen de... C'est ce qu'on appelle le jet. C'est-à-dire qu'il va souffler de l'air par un petit entonnoir et il va voler un petit peu au-dessus du substrat comme un hélicoptère. C'est pas comme un avion. On peut comparer les poissons à des avions. Les céphalopodes, les seiches, les pieuvres sont comme des hélicoptères. Donc, et si vous regardez une petite seiche, elle a en plus de ce moyen extrêmement efficace qui est la la propulsion, la rétropropulsion qui lui permet de nager extrêmement vite. Elle a des petites nageoires qui lui permettent de régler très très finement ses déplacements. Non, je vous dis, c'est extrêmement perfectionné. Hein, c'est...
Et en parlant de vitesse, vous parlez de calmars qui peuvent faire des sauts de 30 mètres?
Oui. Il y a des calmars qui peuvent nager. Je crois que ça fait partie, à vérifier, ça fait partie des nageurs les plus rapides en mer qu'on puisse trouver. Alors, ils nagent sur des distances qui sont très très courtes. Hein. Mais quand ils se propulsent avec leur siphon, ils peuvent nager très très rapidement. Et ils peuvent, il y a plusieurs espèces qui sautent hors de l'eau pour aller plus vite encore.
Les Usain Bolt des mers. Alors revenons à ces histoires de poulpes et d'intelligence. En fait, on dit le cerveau, mais on devrait dire les cerveaux. Parce que vous expliquez bien, c'est compliqué, qu'un poulpe a quoi, trois cerveaux, on peut dire ça comme ça?
Non, il a un cerveau. Il a un cerveau, comme vous et moi. Et puis là, avec les neurosciences, on se rend de plus en plus compte que l'humain a plusieurs cerveaux aussi. On nous dit qu'on a du cerveau dans le système digestif. On a aussi... notre cerveau n'est pas aussi centralisé qu'on le pensait au départ. Bah, le poulpe, du départ, on sait que son cerveau est un petit peu décentralisé. Donc, nous, ce qui correspond à notre moelle épinière, en fait, hein, ce qui les commandes un petit peu basiques, chez le poulpe, sont des commandes qui sont délocalisées au niveau des bras. Et... Donc le cerveau s'occupe des... C'est un petit peu le général d'une armée. Et puis ses colonels et ses soldats sont placés un petit peu à l'extérieur. Mais un petit peu comme nous. Hein. Notre cerveau est aussi délocalisé que le sien, simplement. Le nôtre est placé et centralisé au même endroit.
Et la sèche serait encore plus maligne que le poulpe ?
Impossible à dire, impossible à dire. Quelqu'un m'a demandé un jour si le poulpe était plus intelligent qu'une poule. Vous voyez, c'est le genre de question.
Non, qu'une poule, non, mais c'est dans... Moi, je ne fais que répéter ce que j'ai lu dans votre livre. Hein. Vous dites que quand même, la sèche aurait une intelligence plus fine.
Elle a un plus gros cerveau et elle est beaucoup plus habile pour changer de couleur. Donc elle arrive dans ces changements de couleur, c'est une complexité beaucoup plus impressionnante que le poulpe encore. Donc, de là à dire qu'elle est plus intelligente, c'est compliqué. Chaque animal a son intelligence.
Alors, leurs modes de reproduction sont aussi très étonnants, mais un peu de suspense avant d'en savoir plus, en compagnie du groupe Rovski.
Degrés Celsius sous la Caspienne, tu traînes la farce et forces le geste. Combien de pavanes avant la peste? Combien de charognes au-dessus des restes? Gracieuse engeance, tu glisses aqueuse, pelle indolente, des mers brumeuses, vent tous parés, antennes alertes, tu rôdes vorace et affamée.
Dans ta culesse, dans ta culesse, dans ta culesse,
sous la voûte vaseuse, t'aspires la sève et vise l'écluse, sous le velours la fève, sous le velours tu ruses, pas à pas tu t'accapares. Sous la Caspienne, je me souviens du sable, je me souviens des plaines, des odeurs sauvages et des pluies diluviennes fondant sur les plages en prière païenne. Sous le givre, des filets s'abattent, se gondolent, s'écarquillent, se dilatent, t'embrasses l'abîme, berce les embruns, t'endors à vide, tu n'emporteras rien.
La prise est belle, la proie est reine, tu pries habile et draconienne. La prise
La pieuvre dans C'est pas du vent sur RFI.
C'est pas du vent.
N'est-ce pas là un beau spécimen de céphalopode?
Une pieuvre!
Non, 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 mon ami. C'est un calmar et de belle taille. Ses tentacules mesurent au moins 6 mètres. Quel animal redoutable!
L'épouvantable bête! Et ce bec formidable! C'est pas une pieuvre ordinaire, on dirait un gigantesque perroquet. Que j'aimerais le harponner!
Votre désir va être exaucé, Maître Land. Cette bête est malfaisante et nous allons donc faire surface et la combattre corps à corps. Vous aurez les panneaux.
Attention, capitaine!
Attention, la pieuvre!
Vous venez d'entendre un extrait de l'adaptation en film du roman de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Nous sommes en compagnie de l'éthologue Ludovic Dickel qui vient de publier La vie privée du poulpe chez Humaine Science. Les poulpes effraient autant qu'ils nous fascinent. Là, en l'occurrence, Ludovic Dickel, il s'agit d'un calamar.
Oui.
Un calamar géant.
Un calmar géant. Donc, on reconnaît les calmars. Entre calmars et sèches appartiennent au même groupe. Il y a 8 bras comme le poulpe, mais il y a en plus 2 choses que le poulpe n'a pas, qui sont ce qu'on appelle des tentacules. Donc, les calmars et les sèches attrapent leur proie avec leurs tentacules, donc lancent des tentacules sur leur proie, alors que le poulpe prend des tentacules comme une main prend un caillou.
Alors, Ce roman a participé à la fascination hein, pour les poulpes, les céphalopodes, quoi, les calmars en général, parce qu'on pense, et d'ailleurs il y a eu une photo qui a été prise il y a quelques années, qu'il y a des calmars géants au fond des mers. Qu'est-ce que vous en dites de ça ?
Oh, il y en a. Ne me demandez pas s'il y en a ou pas. Moi, je suis persuadé qu'il y en a.
Jusqu'à quelle taille, à peu près ?
C'est une des raisons pour lesquelles je fais ce métier.
Ah, c'est vous rêvez d'en rencontrer ?
Mais non, quand j'étais petit, j'étais un petit peu fasciné par Jules Verne, par tous les récits des kraken et des monstres. C'est un petit peu ce qui m'a amené à faire ce métier-là. Donc, j'espère qu'il y en a. Après, les plus gros calmars qu'on ait pêchés, font jusqu'à 400 kilos, je crois, 450 kilos, ce qui est quand même pas mal. Alors, ce sont des animaux qui sont pas exploités par la pêche parce que ils sont complètement pleins d'ammoniac, donc ils sont pas du tout consommables.
C'est leur chance.
Sans doute leur chance. Mmh. Donc, quand ils sont chalutés, en général, ils sont rejetés tout de suite. Mais c'est la nourriture des cachalots et donc ils participent beaucoup à la chaîne alimentaire dans les grandes profondeurs. Hein. Mais on ne sait pas trop. On a exploré très très peu les grandes profondeurs. 0,0001% des abysses. On connaît très très peu des abysses. Donc il pourrait y avoir des kraken ou des monstres de calmar. Hein. C'est
mais de plusieurs mètres de long.
Oh ben là, celui que j'évoque, qui fait 450 kilos, faisait 5 mètres, je crois.
Ce qui semble petit par rapport à celui de Jules Verne, par exemple.
Oui, mais c'est Jules Verne.
Oui, il y a dans plein de films, on en voit. Je pense aux Pirates des Caraïbes avec le Kraken.
Ah, mais c'est celui de Jules Verne est complètement ridicule par rapport à ceux qui ont été décrits au XVIIIe siècle, où on pensait que les calmars les plus gros faisaient la taille du Nil. Donc on parle de 3 km pour la taille d'un calmar, ce qui est quand même assez considérable.
Oui, et peut-être un peu excessif quand même, non ?
Oui, c'est-à-dire vous plantez votre tente ou vous allez dans un hôtel sur une île et puis vous vous rendez compte que c'est un calmar, ça doit faire un drôle d'effet quand même.
Ce n'est jamais arrivé encore, mais ça va peut-être arriver un jour. Alors, on avait dit qu'on parlerait de la reproduction, parce que là aussi c'est quand même extrêmement fascinant. Vous décrivez ça avec beaucoup d'humour d'ailleurs dans votre livre. En fait, il n'y a pas de contact réel. C'est un peu pudique, hein, cette relation de reproduction.
Mais là encore, ça varie énormément entre les espèces. Mais les espèces qu'on étudie, alors la sèche par exemple, le contact est assez rugueux. Hein. Le mâle prend la femelle et puis il n'y a pas trop de... Enfin, il ne semble pas y avoir trop de sentiments. Chez la pieuvre, quand on les voit dans la nature, le contact est beaucoup plus doux et beaucoup plus... Le mâle va mettre sa semence dans la cavité paléale de la femelle, pour parler pudiquement, avec le bout de son bras. Donc en fait, le mâle et la femelle s'accouplent à 1 mètre l'un de l'autre.
Et vous dites que le mâle regarde la femelle en disant « c'est pas moi, c'est mon bras ».
Ça me fait rire. Et quand il nous est arrivé d'observer ce comportement dans la nature, on voit un poulpe à côté d'un autre poulpe et on sent qu'il se passe quelque chose. Hein. On sent qu'on peut s'approcher d'eux, ils sont occupés à faire autre chose, mais il n'y a rien qui nous fait penser à un accouplement. C'est assez rigolo. Alors, donc, c'est un petit peu un accouplement à distance. C'est très, 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 très sentimental comme comportement. Mais il y a d'autres espèces. Je parle aussi de l'argonaute, qui est encore plus délicat que le mâle poulpe.
Qu'est-ce que c'est qu'un argonaute ?
Un argonaute, c'est un petit poulpe qui a une sorte de petite coquille. Il fabrique une petite coquille avec ses bras dorsaux. Donc les bras qu'il a au-dessus de la tête sont retournés sur son dos. Et puis il y a une petite, ça fait comme une petite coquille. Ça ressemble à une petite ammonite. Et la femelle est très grosse et le mâle est tout petit. Et pour s'accoupler, donc le mâle va mettre sa semence sur un de ses bras et il va rester à distance de la femelle et il va couper le bras qui porte sa semence et c'est le bras qui va nager jusqu'à la femelle pour féconder la femelle. C'est quand même assez... c'est un comportement tout à fait respectueux du mâle. Hein ?
Et après, l'argonaute mâle, comment il survit sans son bras ?
Oh ben, quand on a 8 bras, on peut se passer d'un bras. Hein. Ouais. Il n'y a pas de souci.
Mais il ne faut pas se reproduire plus de 8 fois.
Ça, j'avais pas pensé à ça. Effectivement, ça pose un problème. Mais c'est un accouplement à distance et ça évite au mâle de se faire manger par la femelle, tout simplement, hein, parce que le mâle est trop petit.
Ah oui, ça, c'est quand même un risque que du coup, il ne prend pas. Et alors, à partir du moment où il y a, si on revient au poulpe fécondation, là, c'est à la femelle de travailler. Elle retourne. Dans une cavité.
Mmh. Donc elle va dans son refuge, hein, dans son abri. Elle va pondre une quantité d'œufs absolument phénoménale.
150 000, ça.
De 100 000 à 500 000 œufs, ça dépend des espèces. Et puis elle va les surveiller, elle va les oxygéner, on va dire ça, le plus longtemps possible, et elle va mourir peu de temps avant l'éclosion des petits.
Alors ça, c'est incroyable. Les parents meurent avant la naissance des enfants chez les poulpes.
Et ça, c'est un autre truc qui est extrêmement touchant pour nous. En termes de... On dit la femelle poulpe ne s'occupe pas de ses petits, mais elle s'occupe de ses petits beaucoup plus que toutes les autres espèces, puisqu'elle laisse la place à la génération suivante, en fait. Donc le fait qu'elle meure, c'est pour laisser la place à la génération suivante. C'est ce qu'on appelle des espèces sémelpares. Donc c'est beaucoup d'espèces de céphalopodes. Les poulpes, les calmars, les seiches sont comme ça. Elles meurent en même temps que... Ce sont des animaux qui meurent en même temps qu'ils se reproduisent.
Mais sur les... Entre 100 000 et 500 000 œufs, combien survivent ?
Bah, statistiquement, si vous voulez que la population de poulpes soit constante, c'est 2.
Ah oui, c'est très peu en fait.
La sélection doit être complètement drastique. Alors les petits poulpes naissent à l'état de ce qu'on appelle des paralarves. C'est-à-dire on a tout, ça ressemble vraiment à un poulpe adulte, sauf que les bras sont très courts et ils font moins d'un millimètre. Donc ils se promènent avec le plancton. Et puis il faut, donc là il doit y avoir une prédation absolument redoutable.
Et le mâle ne s'occupe pas du tout de sa progéniture ?
Non.
Et il disparaît lui aussi ?
Non, de temps en temps, quand on voit des mâles avec des alors pas ces petits, ah, il disparaît aussi, il meurt aussi après l'accouplement. Mais quand il nous arrive en élevage d'avoir des mâles qui cohabitent avec des animaux, des seiches ou des poules plus petits, ils les mangent. Donc, vaut mieux qu'ils meurent.
Ouais. Et alors, du coup, ce sont des animaux qui vivent assez peu de temps ?
Ça vit 2 ans, entre 1 et 3 ans pour le poulpe, 2 ans pour la seiche.
Alors pourquoi c'est intéressant de les connaître au-delà de toutes les recherches que vous faites ? C'est parce que selon de nombreux scientifiques, il y en a quand même de plus en plus dans l'océan. Comment est-ce que cela s'explique ?
Alors il y en a de plus en plus sur la côte au sud de la Bretagne, hein, jusqu'à la Vendée. Il y a une explosion des populations de poulpes. Les pêcheurs en pêchent, je crois que cette année, il y en a 70 fois plus en tonnage que l'année précédente. Donc c'est vraiment une explosion, c'est comme une invasion. Et puis, un poulpe, c'est un prédateur qui est complètement redoutable. Donc, il y a plus d'autres proies. Donc, les homards,
les crabes,
les araignées de mer, il n'y a plus rien. Donc, c'est un petit peu problématique pour la biodiversité, selon certains. Et puis, pour d'autres, comme moi, qui aimons les poulpes, on est content de les voir remonter chez nous. Moi, je pense que je suis pas du tout spécialiste de la question, mais je pense que ce sont des animaux qui ont des capacités d'adaptation. D'une part, l'augmentation de la température de l'eau, ça doit leur être favorable pour la reproduction, pour leur métabolisme d'une façon générale. Et puis, ce sont des animaux qui possèdent un gros cerveau, ce sont des animaux qui s'adaptent à des modifications rapides de l'environnement. Donc, par rapport à d'autres espèces, ce sont des animaux qui sont avantagés.
Et puis, peut-être moins de gros prédateurs à cause de la surpêche. Donc, du coup, plus d'espace pour eux.
Aussi. Donc, on va voir une explosion de poulpes. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer, parce que quand il n'y aura plus de proies, j'imagine... Il y a eu une explosion de poulpes aussi au large de Dakar. Hein. Sur les côtes de Dakar, il y a eu une explosion dans les années 70. Ça a duré une année ou deux, et puis ensuite, ça a disparu, parce qu'il n'y avait plus de proies pour les poulpes. Mais c'est vrai que là où les poulpes passent, il ne reste pas grand-chose.
Cela dit, il n'y en a peut-être pas encore assez, puisque la première ferme d'élevage de poulpes devrait ouvrir ses portes l'an prochain, en Espagne. Une multinationale spécialisée dans le commerce des produits de la mer en fait le pari. Elle espère produire 3000 tonnes de poulpes par an pour le marché national et international. Grâce à un élevage intensif, ça serait situé près du port de Las Palmas, dans les îles Canaries. Et elle devance ainsi technologiquement des firmes mexicaines, japonaises et australiennes qui planchaient ces dernières années sur un projet similaire. Ça vous inspire quoi ?
Quand j'ai entendu parler de ce projet, alors on n'est pas beaucoup informé sur la forme que cet élevage va prendre. Mais compte tenu des quantités qui sont envisagées, on peut imaginer que c'est un élevage à l'échelle industrielle. Et compte tenu de la multinationale qui met ça en place, qui est déjà spécialisée dans l'élevage des crevettes et des turbos, très intensif. Je pense que ça va être plutôt dans cet esprit-là. La première idée qui m'est venue, c'est de me dire, si on domestique le poulpe, c'est peut-être une façon de maintenir les populations de poulpes sauvages, parce que là, pour l'instant, on ne consomme que du poulpe sauvage, donc c'était plutôt positif. Après, je suis très circonspect, j'ai beaucoup de doutes sur la façon dont les choses vont être faites. Mais de toute façon, ça va faire partie des espèces aquacoles dont la domestication, je pense, est inéluctable. On ne va pas pouvoir continuer à prélever tous les poissons et tous les poulpes sauvages dans la nature. Donc, c'est inéluctable. Après, il faut que ça se fasse de façon extrêmement raisonnée. Je ne pense pas que ça soit le cas ici.
Mais après tout ce que vous venez de nous raconter sur ces animaux, on a du mal à imaginer qu'on puisse les entasser comme ça dans des cages de façon industrielle.
C'est le cas pour tous les animaux qui sont en élevage industriel. Donc, on parlait des poules tout à l'heure, mais c'est le cas pour plein d'espèces. Donc, ça va rejoindre, et puis plein de poissons en aquaculture. Et il n'y a surtout pas de réglementation sur les invertébrés pour l'aquaculture, pour le bien-être des invertébrés en aquaculture. Donc, ça laisse la porte ouverte à pas mal de choses en termes de non-respect du bien-être de l'animal. Donc, mettons en place un cadre législatif rigoureux, essayons de mieux connaître comment l'animal vit dans la nature avant de pouvoir le domestiquer dans les meilleures conditions possibles.
Voilà, ça, ce serait dans l'idéal. Merci beaucoup, Ludovic Dickel, d'être venu dans C'est pas du vent. Je rappelle le titre de votre livre, La vie privée du poulpe, c'est publié chez Humaine Science.
Ce qui était bon à Vrti vrdažni Smeri to va menci Menci me trafi Se gini bo na vrti Vrti vrdažni Smeri to va menci Menci me trafi Mama, sjedimo en hard Asen zamran damskim opar Sonom branzat gompa Shëndru, ti s'ke shëndru as me nimi Shumë gabime tua, unë i këm përbi Kalëzëm qysh metaforën dy Kura shëqare jetëm brajnë sy Po më stani mi redi Zoni jam krizi melodi S'ki me mujti me fshi Dashnin ti e vrave tragedi Se kejti puna për ty Për ty, për ty, për dashni S'meri tuva me më thy Me më thy, me më thy, me trafi Smeri tu a mentë fi
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Le rappeur albanais du Kosovo, Capital T, dans C'est pas du vent sur RFI.
C'est pas du vent. Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Un rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature a parlé d'elle comme de la mare plasticum. La mer Méditerranée souffre de nombreuses pollutions et notamment celles liées aux déchets plastiques. Et selon ce rapport, Tirana, la capitale albanaise, serait la quatrième ville la plus génératrice de déchets de toute la Méditerranée. Des centaines de mètres de déchets s'entassent à l'embouchure de l'Ishëm, un fleuve considéré comme le plus pollué d'Europe. L'ONG River Cleanup et des centaines de volontaires albanais comptent bien mettre fin à cette catastrophe écologique. C'est un reportage sur la côte albanaise de Louis Seyé.
Quand je suis arrivée ici, c'était un vrai cauchemar, un cauchemar de déchets. Je n'aurais jamais pensé que la rivière pouvait en charrier autant. C'est seulement quand on vient voir les choses sur place que ça devient concret et qu'on réalise l'ampleur de la pollution.
Des collines verdoyantes, une mer calme et peu profonde, et dans le lointain, des montagnes ensoleillées. Autour de Midvalda, le décor paraît idéal pour profiter de la côte albanaise. Mais à l'embouchure du fleuve Ishëm, la plage de sable a tout simplement disparu, ensevelie sous des tonnes de déchets, comme le constate aussi Renato, un jeune professeur de français de Tirana.
Bon bah ici, en fait, il y a du tout. Il y a des bouteilles de lait, il y a des bouteilles d'eau, des bouteilles d'huile. On peut trouver des restes de médicaments, des seringues, des cachets, du tout, en fait. Des canettes. On peut trouver même des jouets, des petites poupées.
C'est une épicerie ici, en fait.
Oui, c'est une épicerie, mais pas saine. C'est une épicerie où il ne faut pas y aller et qu'il faut, en fait, il faut faire disparaître, il faut vraiment régler ce problème de cette épicerie géante.
kilos de déchets plastiques, c'est ce que déverse chaque année le fleuve Ishëm dans la mer Adriatique. Une pollution humaine astronomique qui fait de ce fleuve de seulement 70 km de long le plus pollué d'Europe, selon l'ONG Ocean Cleanup. À 26 ans, Drini est effondré par ce triste record.
En tant qu'habitant du coin, ça me rend vraiment triste qu'on parle de cette rivière comme l'une des plus nocives pour la mer Adriatique. Surtout que dans le coin, il y a le Cap Rodoni, un des beaux endroits d'Albanie et même des Balkans. Ces déchets, c'est vraiment désolant. Mais j'espère qu'avec les mécanismes qu'on est en train de mettre en place avec River Cleanup Albania, on va changer les choses pour la rivière Ishëm.
Comme Drini, ils sont plus d'une centaine de bénévoles ce samedi à s'être armés de gants et de sacs poubelles. Ces jeunes Albanais ont répondu à l'appel de l'ONG River Cleanup Albania. Ils ont parcouru les 45 minutes du difficile chemin boueux qui mène à la mer. Briseida Lala est l'une des organisatrices.
Environ 1 million de gens habitent le long du fleuve Ishëm. La plupart des gens déposent leurs déchets aux abords de la rivière, sans vraiment réaliser que ces déchets finissent tous par se déverser ici, dans la mer Adriatique. Et avec le mauvais temps, ils se dispersent tout le long des côtes albanaises, mais parfois aussi chez les pays voisins. Et bien sûr, ça fait mal de voir notre pays dans cet état. Et c'est pour ça qu'autant de gens sont là aujourd'hui. On est tous venus dans le même but, on est tous bénévoles et on est tous venus pour nettoyer notre pays. Parce qu'on aime notre pays et on aimerait le voir débarrassé de tout ça.
Chaque année, la Croatie voisine se plaint de l'arrivée sur ses îles de ces milliers de bouteilles et emballages venus d'Albanie. Selon un rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature, Tirana et son million d'habitants serait la quatrième ville la plus génératrice de déchets de toute la Méditerranée. Fermier de 40 ans, Samir habite sur les collines qui surplombent l'embouchure de l'Ishëm. Ce père de famille subit tous les jours les conséquences de cette pollution en provenance de la capitale albanaise.
Bien sûr, c'est super cette action de nettoyage, mais ça ne suffit pas de nettoyer une seule fois. Il faudrait que la collecte des déchets soit régulière, mais ça, ça n'existe pas. Il y a 2 ans, des volontaires italiens sont venus nettoyer le cap de Rodoni, juste là-bas. C'était super. Mais 2 jours plus tard, tous les déchets étaient revenus.
Comme dans d'autres pays des Balkans, la gestion des déchets reste catastrophique en Albanie. Influence des réseaux criminels, corruption et manque de volonté politique, les déchets finissent bien souvent leur course dans les rivières du pays.
S'il y avait vraiment un État, ces déchets seraient ramassés. Mais en Albanie, l'État ne fonctionne pas du tout. Voilà ce que je pense. Il y a quelques mois, il y a eu des élections et à ce moment-là, tout le monde est venu nous voir pour nous convaincre d'aller voter. Mais dès que l'élection est passée, c'était fini. S'occuper des déchets ne les intéresse plus.
Il y a beaucoup de scientifiques aussi ici en Albanie qui ont fait des études qui montrent que les estomacs des oiseaux et des poissons sont remplis de petites particules de plastique. Donc, si on ne change pas les choses pour nous, on peut peut-être essayer de penser aux animaux.
Provoquer une prise de conscience de la société et forcer les entreprises comme les responsables politiques albanais à s'attaquer enfin sérieusement au problème des déchets, c'est l'objectif que se sont fixés l'ONG belge River Cleanup et ses partenaires locaux. Son responsable, Kevin De Backer, espère bien faire de la rivière Ishem l'une des plus propres d'Albanie d'ici 2030.
Upstream, we have to find a solution.
Plus en amont, il faut que l'on trouve des solutions technologiques afin de bloquer et d'empêcher les déchets d'arriver jusqu'ici. Mais ça, c'est seulement l'aspect nettoyage. Car la deuxième chose, c'est qu'il faut développer des programmes d'éducation afin d'aller dans les écoles pour éduquer les enfants à la question des déchets, afin qu'eux-mêmes puissent sensibiliser leurs parents.
Chaque année, entre 8 et 10 millions de tonnes de plastique sont rejetées dans les océans de la planète. Surexploitée et victime de la pollution aux microplastiques, la mer Méditerranée est ainsi l'un des écosystèmes les plus pollués de la planète.
Un reportage de Louis Seyer réalisé par François Porcheron. C'est la fin de cette émission. Merci à tous pour votre fidélité. Vous êtes nombreux à nous écrire. Continuez, nous adorons vous lire par mail, c'estpasduvent@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi partager nos podcasts sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Même planète, même heure.